Cap Sport, la rediff.
Cyclisme et rallye au menu de Cap Sport. Aujourd'hui, la saison de deux roues est lancée avec Tour Down Under disputé en ce moment en Australie. Secoué par l'affaire Chris Froome, le peloton s'attaque à une saison inédite avec un Tour de France qui a revu quelque peu sa copie et qui s'annonce du coup dynamique et spectaculaire. Et un Tour d'Italie, lui, qui partira d'Israël. Sans oublier, bien sûr, un passage remarqué du Tour de Romandie par chez nous dans l'arc jurassien. Nous évoquons cette nouvelle saison avec notre consultant, l'ancien champion du cyclisme mondial, Christophe Moreau. Et puis dans la deuxième partie d'émission, on abordera la passion sans faille d'un amoureux du sport automobile. Le prévotois Olivier Burry s'attaque la semaine prochaine, et ce pour la 20e fois, à un véritable mythe, le rallye de Monte Carlo. L'occasion de revenir sur ses péripéties et d'évoquer certaines anecdotes. Bonsoir et bienvenue dans Cap Sport, le rendez-vous sportif de la rédaction. Michel Léoni, bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va commencer cette émission par un sport qui est aujourd'hui une nouvelle fois en pleine tourmente et qui s'apprête pourtant à vivre une saison des plus spectaculaires. On parle bien sûr de cyclisme, Michel.
Oui, la petite reine qui navigue une nouvelle fois en eau trouble après l'annonce il y a un gros mois maintenant d'un contrôle positif effectué sur Chris Froome, qui a gagné l'an dernier le Tour de France pour la quatrième fois et le Tour d'Espagne pour la première fois. Et c'est justement sur la Vuelta que le Britannique a été contrôlé positif au salbutamol, un produit pour lutter contre l'asthme. Avant d'évoquer la saison 2018 et qui vient de commencer et qui s'annonce animée, on va justement revenir sur les conséquences de l'affaire Froome dans le peloton. Pour ce faire, on accueille notre consultant le temps. Christophe Moreau, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir accepté déjà notre invitation et d'être en direct par téléphone avec nous. Alors la saison vient de commencer avec le Tour donc en Australie, et pendant ce temps, on n'a toujours pas de nouvelles de l'affaire Chris Froome ni d'une éventuelle suspension du Britannique. Christophe Moreau, comment est-ce qu'on peut expliquer que la décision sur le cas Froome mette autant de temps à être prise ?
C'est vrai que il veut trouver des arguments à sa défense. Il déclare qu'il faut le rappeler à doubler le temps qui est autorisé au niveau du salbutamol. Il est retrouvé positif, mais il a une justification thérapeutique par des médecins et le médecin du CI. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'un mois après, on devrait et on doit avoir une décision ferme et définitive, justement pour ne pas jeter l'eau pauvre sur le peloton tout entier. Et comme c'est une star et que c'est le dernier vainqueur de 4 Tours de France et notamment de la Vuelta, il faudrait absolument résoudre cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est temps que les instances puissent statuer librement pour l'image du cyclisme international.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration cette semaine du président de l'UCI qui indiquait, lui, que ce serait à son équipe, à la Sky, de suspendre, en tout cas momentanément, Chris Froome?
Il est clair qu'aujourd'hui, peut-être dans un titre préventif, sans dire qu'il soit coupable, en tout cas de statuer là-dessus, il aurait peut-être valu, par rapport aux autres champions cyclistes, par rapport aux autres équipes, par rapport à l'UCI, peut-être à titre provisoire, suspendre Chris Froome. La Sky ne l'a pas fait, et au contraire même, elle argumente des cas assez graves. On parle d'insuffisance hépatique et rénale pour retrouver des taux aussi énormes de salbutamol dans le corps de Chris Froome. Ça devient presque ridicule, et il est temps que maintenant l'UCI statue sur ce collège de médecins que Froome s'est entouré.
Ça devient ridicule, hein. Vous nous dites, Christophe Moreau, c'est l'image finalement du cyclisme qui est en jeu, une image qui est ternie par ce genre d'affaires, qui plus est, c'est Chris Froome, vainqueur et multiple vainqueur du Tour de France, une affaire qui traîne en longueur, vous l'avez également dit. Comment est-ce que vous réagissez en tant qu'amoureux de ce sport ?
Non, mais c'est tout à fait ça. Je crois qu'il y a eu d'autres cas par le passé qui ont eu un contrôle positif au salbutamol avec des taux qui étaient dépassés, des taux maximum largement dépassés, voire un peu moins que Christopher Froome, et des coureurs ont été sanctionnés et ont dû subir une suspension de quelques mois. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce statut, quoi qu'il puisse défendre au niveau physiologique avec son collège de médecins et de spécialistes, il est clair que je pense qu'il devrait, à juste titre, et je crois que c'est mon avis, mais je crois que le peloton entier, je pense comme moi, de pouvoir suspendre sportivement Chris Froome de 3 ou 6 mois pour au moins ne pas faire de cas à part.
Alors on va écouter désormais un autre amoureux du cyclisme, Richard Chassot, qui a aussi son avis sur le cas Froome. Noémie a demandé à l'organisateur du Tour de Romandie si cette affaire a des répercussions sur la boucle romande, notamment dans la quête de sponsors et de soutien. On écoute la réponse de Richard Chassot.
Bien évidemment, de toute façon, aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'un sponsor qui veut nous dire non, on trouvera toujours une bonne excuse, parce que le cyclisme reste quelque chose de très populaire, quelque chose de très médiatique, de gratuit pour les spectateurs. Donc voilà, il y a toujours le pour et le contre. Alors, ce n'est pas vraiment ça qui va faire qu'un sponsor vient ou ne vient pas dans le cyclisme, parce que ça ferait 20 ans qu'on n'existerait plus, et que le sport de haut niveau a aussi certains problèmes. Mais par contre, c'est une excuse facile. Après, moi, ce n'est pas tellement que pour le financement. Nous, c'est la problématique de donner une belle image aux jeunes et tout, et puis c'est compliqué. Puis là, l'affaire Froome vient ajouter quelque chose, même si ça fait 2-3 ans qu'on était un peu tranquille, même si encore je le répète, c'est pas vraiment un cas de dopage, c'est un cas vraiment de problème de médicamentation lors d'un problème de santé, mais le cyclisme est devenu très très strict, compliqué à gérer aussi, même pour les médecins, on le voit. Donc voilà, c'est de toute façon mauvais, il n'y a pas d'autre solution. Après, je crois qu'on vivra jamais dans le monde de Walt Disney où tout sera génial pendant les 20 prochaines années et sans histoire de ce type-là.
Alors qu'un contrôle positif au salbutamol a été révélé, on a parfois entendu dire que beaucoup de coureurs utilisaient des produits contre l'asthme dans le peloton. C'est quelque chose que vous avez connu dans les années 2000, Christophe Moreau ?
Oui, bien sûr, et ce sont des choses qui ont évolué dans le bon sens par rapport à cette ce suivi et cette pathologie médicamenteuse qu'on peut avoir et qui est tolérée sous certaines conditions très drastiques de l'ICI avec un collège de médecins et d'équipe. Néanmoins, il est clair qu'on fait un sport à l'extérieur, qu'on est beaucoup à inhaler tout ce qui traîne dans l'air, de la pollution, mais aussi pas mal de pollen et d'acariens, des choses comme ça. Il est clair qu'on a des sensibilités plus accrues que le commun des mortels et que, et moi le premier aussi, d'avoir recours à des traitements de ventoline pour des problèmes d'asthme. Et c'est clair que c'est quelque chose qui existe. Après, ce qu'il faut, c'est ne pas se retrouver dans le méandre de l'utilisation de ce produit et surtout de le gérer pour ne se pas retrouver avec des taux comme Froome qui aujourd'hui sont difficilement explicables lorsqu'on utilise un inhalateur comme celui-ci.
Le coureur français Romain Bardet a déclaré « Si les journalistes n'avaient pas sorti d'infos, on ne l'aurait peut-être pas su avant quelques années. Le cyclisme manque de transparence », c'est ses mots. Est-ce que Christophe Moreau, vous confirmez, est-ce qu'il y a un manque de transparence dans le monde du cyclisme ?
Ouais, je ne crois pas que par le passé, il y a eu des cas positifs dans le cyclisme qui ne sont jamais sortis, ça ne me semble pas. Christophe Froome n'a pas eu d'ailleurs un traitement de faveur, la preuve. Que ce soit les journalistes, mais l'UCI aussi a communiqué elle-même avec son nouveau président David Lapartien. Donc je crois qu'il a aussi le nouveau président de l'UCI, David Lapartien, qui ne ferait pas de cas à part. Il ne voudra pas traiter le cas Froome parce que c'est le dernier vainqueur du Tour de France et de quatre Tours de France qu'il aura un traitement de faveur. Non, ils vont essayer de le statuer justement pour qu'il y ait une équité totale et qu'il y ait aussi une décision prise qui soit juste et qui peut-être pourrait sanctionner si d'aventure, et ça, à mon avis, ça devrait être le cas, mais je dis ça devrait, de dire qu'il y a un manquement dans l'utilisation de ce produit et que quelque part il a dépassé une ligne blanche et de ce fait, il devrait recevoir quelques mois de suspension comme tout coureur.
Rapidement, Christophe Moreau, on a évoqué le fait que le peloton est secoué par cette affaire. On imagine bien que Chris Froome également est secoué par cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui cette saison s'il venait à ne pas être suspendu ?
Écoutez, je crois qu'il est clair qu'il veut gagner un cinquième Tour de France. Je crois que ce sont une équipe et Christophe Froome sont des gens qui ont la capacité de passer cette problématique. Je crois qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est d'avoir gain de cause et de justifier avec ce collège des médecins que tout est en ordre. Il faudra le prouver et je peux vous dire qu'il sera le couteau entre les dents, peut-être encore plus remonté pour montrer au public entier que Christopher Froome est là et qu'il peut pédaler sans avoir cette dose de salbutamol dans le sang et qu'il est capable encore de gagner un Tour de France.
Et on va donc suivre cette affaire attentivement, bien sûr, une décision de l'UCI qui est attendue par le peloton, bien évidemment. On va désormais aborder le calendrier riche et à la fois excitant de cette saison 2018 de cyclisme. Avant cela, Christophe Moreau, on aimerait vous poser la question qui tue, la question du commun des mortels. Pourquoi est-ce qu'il faudrait encore regarder le cyclisme alors qu'ils sont tous dopés ? C'est une question qu'on entend souvent et on a aimé vous la poser, Christophe Moreau, vous qui êtes un ancien cycliste. Qu'est-ce que vous auriez à répondre ?
Non, mais moi, ce que j'ai à répondre, c'est que le sport cycliste est devenu un exemple de lutte anti-dopage, que ce soit avec
la planification d'âme, que le suivi biologique, que les contrôles inopinés sanguins et urinaires, avec des profils physiologiques permanents de 365 jours sur 365. Au contraire, je pense qu'il faut continuer à regarder le vélo avec un œil qui fait rêver. Le Tour de France restera toujours aussi populaire, il y aura toujours aussi autant de public et de monde et des enfants. Et c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que si on trouve chez Christophe Froome, ça veut dire qu'on cherche et qu'on lutte et qu'on souhaite avoir le maximum de coureurs clean pour pouvoir justement redorer le blason du cyclisme qui a été largement terni par les années passées. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un cyclisme qui est de plus en plus propre. On peut croire en nos champions, toutes nations confondues, que des jeunes qui arrivent aujourd'hui viennent titiller Froome, et notamment nos Français, entre Bardet et Pinot, qui sont capables aujourd'hui de gagner le Tour de France. Et je crois qu'il faut y croire et garder ce côté populaire qui rend, je dirais, les gens de 7 à 77 ans heureux de voir leur télévision.
En tout cas, nous, on aurait un œil attentif sur cette saison de cyclisme, aussi également pour le spectacle attendu, et notamment au mois d'avril, lors du passage du Tour de Romandie dans la région. Certains coureurs qui jouent le podium lors du Tour de France ont pris pour habitude de participer à cette boucle romande. Est-ce que ce sera à nouveau le cas, d'après vous, cette année ?
Oui, bien sûr, c'est devenu... Je crois que le Tour de Romandie est devenu une course incontournable, que ce soit pour les coureurs du Tour de France, mais surtout pour les coureurs du Tour d'Italie, qui reste une dernière course à étape de préparation avant ces trois semaines du Giro. Et il est clair que cette course est devenue la référence, le rendez-vous des grands. D'ailleurs, Christopher Froome a gagné à plusieurs reprises. Les gens et les champions du Tour de France se retrouvent au Tour de Romandie sur des parcours sélectifs, difficiles, sur une petite semaine. Et je crois que c'est vraiment le format idéal d'une course moderne aujourd'hui à étapes.
Alors, un Tour de Romandie qui passera par la région, avec notamment une étape Fribourg-Delémont, une autre Delémont-Yverdon. On devra par contre attendre le mois d'avril pour connaître le détail des étapes du Tour de Romandie QV 2018. Mais ce qui est sûr, c'est donc qu'une arrivée et un départ seront donnés dans la capitale jurassienne. L'organisateur de la boucle romande, Richard Chassot, nous parle de son retour dans le Jura.
C'est vrai qu'on va effectivement dévoiler le parcours plutôt à mi-avril, comme d'habitude. On dévoile en général les villes sur le site internet ou par conférence de presse, ça dépend un tout petit peu. Et là, évidemment, contrairement aux deux années passées, on va revenir dans le Jura. Et en fait, on va le traverser complètement, puisque, comme vous l'avez dit, on va jusqu'à Delémont dans un sens, puis on retourne dans l'autre sens pour revenir sur le canton de Vaud, l'étape suivante. Donc, on va profiter de ce terrain de jeu qu'il y a dans le Jura pour le cyclisme.
Sur ces trois dernières années, il y a quand même La Neuville, Saint-Imier, Moutier, Port-en-Truil, La Chaux-de-Fonds ou encore Payerne, on va dire dans la région par ici, qui ont accueilli soit des départs, soit des arrivées. Vous avez quand même un attachement particulier à la région, en tout cas.
Non, mais c'est sûr. Et puis, en même temps, la Romandie est petite. Oui. Mais c'est vrai que depuis Port-en-Truil, on avait plus refait d'arriver vraiment, on va dire, sur le Jura avec une étape de baroudeur. On a régulièrement, alors c'est vrai, des villes intéressées. On aime venir dans le canton du Jura parce que, ou dans la Neuchâtelois, parce que, à quelque part, ça nous donne un terrain de jeu avec les montagnes qui sont intéressantes, qui ouvrent des perspectives pour le classement général du Tour de Romandie. On aime bien le faire, c'est vrai, plutôt en début de Tour de Romandie parce que, bon, selon le climat, ça peut être difficile à très difficile. Et puis, c'est toujours pour les équipes un des parcours qui sont compliqués à maîtriser, qui sont difficiles physiquement, qui donnent de belles étapes. Donc, on essaie de venir régulièrement, évidemment. Par contre, le bémol, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de villes capables d'accepter ou de pouvoir mettre en place les infrastructures du Tour de Romandie qui sont de plus en plus lourdes.
Alors, le Tour de Romandie qui revient dans le Jura, et Christophe Moreau, c'est la meilleure des cartes postales possibles pour un retour éventuel du Tour de France ?
Oui, en tout cas, le Jura fait toujours référence, et Richard Chassot l'a largement dit, il aime le Jura, par contre, qui joue un rôle sur la semaine romande, et c'est clair qu'on peut encore imaginer recevoir le Tour de France et l'organiser, parce qu'on l'a fait une fois, pourquoi pas deux fois.
Et puis après la boucle romande, il y aura bien sûr le gros morceau de la saison, c'est le Tour de France, avec un profil un peu différent que ce qu'on a connu ces dernières années, un peu plus dynamique, avec notamment une étape de 65 km seulement, un seul contre-la-montre individuel ou encore les pavés de Paris-Roubaix. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, ces étapes un peu spectacle ?
On essaie de sortir des sentiers battus, de trouver des parcours un peu inédits, des formats inédits, des courses à étape de 65 km avec trois cols, des pavés, des arrivées au sommet sur des terrains et des sentiers caillouteux dans les Alpes. C'est de déstabiliser la Sky, d'aller chercher Froome sur des terrains qu'il connaît moins. bref, de donner aussi du spectacle. Et je crois que ça fait partie du Tour de France d'aller chercher des nouveautés. On sera servi cette année.
Et puis le Tour de France n'est pas les seuls hein, à faire dans l'originalité, notamment le Tour d'Italie également, qui partira cette année d'Israël. Vous en pensez quoi?
Je crois qu'il faut aussi garder à l'époque aussi du Tour de France qui partait aussi en Allemagne, de Hollande, notamment de Londres. Il est clair que je pense que pour ma part, je voudrais rester sur des départs limitrophes avec l'Italie et l'Israël. Ça fait vraiment le buzz, c'est clair. Mais ça fait beaucoup de déplacements, beaucoup plus de fatigue pour les coureurs. Et je crois qu'il ne faudrait pas aller plus loin que ça, parce qu'on a parlé du Tour de France, le départ à Montréal. Imaginez, on imagine tout et n'importe quoi. Il faudrait juste penser aux coureurs et penser à la course et pas aller trop dans la course au spectacle, même si on est déjà très servi avec des programmes tout à fait originaux.
Christophe Moreau, vous êtes notre consultant en cyclisme. Merci d'avoir été avec nous en direct par téléphone dans CapSport. On vous retrouvera bien sûr dans le courant de la saison pour vos analyses. Et puis, permettez-moi, avant de tourner la page cyclisme, de vous signaler cette épreuve de Coupe du Monde de cyclocross qui se déroule ce week-end à Nomé, en France voisine.
CapSport, jusqu'à 19h.
Et de la force du mollet, on passe à la finesse du pilotage et on embarque dans la Skoda Fabia R5 d'Olivier Bury. Le pilote de Belpraon participe la semaine prochaine pour la 20e fois à un véritable mythe, le rallye de Monte Carlo.
À 54 ans, Olivier Bury voue toujours la même passion au rallye et en particulier à cette échéance majeure qui a toujours lieu en tout début d'année. Le pilote de la région avait fini le Monte à la 14e place du général l'année passée. Une performance remarquable. Il rêve d'épingler un autre bon résultat cette année pour son jubilé. À quelques jours d'en découdre sur les routes de ce mythique rallye, Mathieu Schaffner a rencontré Olivier Bury.
L'avantage du Monte Carlo, c'est que c'est un rallye qui a un package spécial. C'est qu'il faut avoir de la vélocité, mais surtout beaucoup d'intelligence et savoir rester calme et de se dire, bon ben voilà, si on a perdu 10, 15 secondes, voire peut-être même une minute dans une spéciale, on va pouvoir peut-être limiter les dégâts. Je crois qu'il y a quasiment personne qui fait une course parfaite durant le Monte Carlo. Tout le monde va de sa petite erreur. Après, sa petite erreur, ben, soit elle est définitive pour certains, soit on a de la chance, on peut s'en sortir sans trop de frais. Et ça, c'est l'expérience un petit peu qui dicte de savoir opter pour un rythme sans aller chercher. On part toujours de cette base de 100%. Un critérium, on peut se donner à 110% sur des routes sèches où il n'y a aucun problème. Mais si on part à 100% dans un rallye Monte Carlo, on ne va même pas voir la fin de la première étape.
Vous serez 9 amateurs au départ de ce rallye de Monte Carlo. Il y a un objectif dans cette classe-là en particulier que vous allez chercher?
Alors on sera 9 avec le même type de véhicule. Après, il y en a d'autres qui seront moins bien lotis avec des deux roues motrices. Mais c'est sûr que là, quand on va se battre contre des noms comme Stéphane Sarrazin, ancien pilote de F1, pilote de championnat du monde d'endurance des 24 heures du Mans avec Toyota, et les deux nouveaux petits joyaux de Skoda avec Weiby et le fameux Reuven Perra, il a 17 ans et ça fait déjà pas loin de 10 ans qu'il roule. Alors imaginez-vous, son père l'a mis dans une voiture à l'âge de 7 ans et on peut regarder des vidéos, c'est absolument hallucinant. On va se battre contre ce genre de personnes-là et on verra bien, quoi. On fera le décompte à la fin.
Il n'y a pas d'objectif de place que vous avez en tête?
Bah si, on part toujours pour essayer d'être le meilleur amateur, mais quand on a vu la liste des engagés, on a tout de suite un petit peu déchanté. Après, si on fait un podium dans les amateurs, c'est bien, mais on va toujours avec le secret espoir de faire le mieux possible. Un top 15, ça serait extraordinaire. On a fait 14 années passées, on espère faire aussi bien et surtout déjà voir l'arrivée. Je ne vais pas faire un rallye un 20e pour me prélasser et puis regarder et saluer tous les spectateurs au bord de la route. Je vais quand même pour attaquer, donc j'espère que mes yeux seront au top, mes ouvreurs seront au top et la voiture également, donc ça sera au pilote de faire la différence.
Pourquoi ce rallye-là en particulier finalement?
Pourquoi? Ben parce qu'il tombe bien, il tombe au début de l'année, il y a de la neige, il y a de la glace, il y a du sec, il y a des paysages qui sont magnifiques et c'est pas un rallye où on doit être à 250% dans chaque spécial, où on doit prendre un risque énorme. Plus les années passent, plus on devient sage dans certaines portions. Et cette sagesse, des fois, porte énormément au niveau du chrono.
En 20 ans, ça a beaucoup évolué. Une bande de copains au début. Aujourd'hui, il y a des teams qui viennent se greffer là autour. Comment vous avez vécu finalement cette évolution? C'était mieux avant? C'est mieux maintenant? C'est difficile à comparer?
très difficile. Alors j'ai quand même la chance que il y a beaucoup d'amis qui sont restés, hein, donc qui viennent encore avec moi cette année. Ça qui fait un plaisir énorme. C'est vrai que le rallye a changé. On a la nostalgie dans le temps. C'est vrai qu'on préparait un Monte Carlo déjà depuis début décembre. On traçait des cartes, on se retrouvait tous les soirs et tous les week-ends, on faisait la préparation des bus, etc. Et ces années-là, on avait le droit d'aller reconnaître le parcours. C'était totalement libre. Donc on faisait 7-8 passages de reco, ce qui impliquait en tout cas 2 semaines sur place, complet. Et ça, c'était vraiment très, très, très lourd à devoir supporter. Mais si on regarde un ensemble financier, le rallye n'était pas plus cher dans les années 90 que maintenant. Maintenant, on a des voitures qui sont plus pointues, plus chères, les pneumatiques sont devenues plus importantes, les contraintes pour des amateurs sont devenues supérieures, donc on n'a quasiment aucune aide particulière de la FIA et de l'Automobile Club pour justement que les amateurs soient plus nombreux au départ, parce qu'on est pénalisé comme les pilotes pros des usines.
Et finalement, le plaisir dans tout cela, il était plus important dans les années 90 ou il l'est tout autant aujourd'hui ?
Bah, il est tout autant, simplement qu'avant, le rallye, il se dirigeait quasiment sur une semaine. On partait de Suisse, on partait de Lausanne, on avait droit à une nuit au Palace, on avait droit au téléjournal en direct le soir. Imaginez-vous, donc c'était quelque chose qui était facile à vendre pour des partenaires, parce qu'on avait quasiment un acquis garanti. Et dès le moment où on avait fini le parcours de concentration, on avait tellement de presse à pouvoir donné à nos partenaires que l'ensemble de l'opération était déjà réussi avant même d'avoir fait le premier chrono. C'était extraordinaire.
Ça sera le 20e. Il y a eu 2 coups d'éclat. Je crois qu'on peut les appeler ainsi, les 2 fois où vous avez marqué des points en championnat du monde. Ce sont les 2 meilleurs souvenirs ou pas forcément, c'est pas la performance qui prime ?
Non, pas forcément. Donc les points où on a marqué sont des bons rallyes, donc on les a bien terminés, effectivement. Mais on a 2 anecdotes extraordinaires. C'est que on a été virtuellement tête du championnat du monde des rallyes en 2001 avec une Toyota Corolla, alors que tous les autres avaient déjà les nouvelles Peugeot, etc. On était à 4 secondes de Didier Auriol après 2 spéciales. Alors c'est clair que nous, on avait fait un choix de pneumatique qui était peut-être un petit peu différent des usines. Voilà, ça c'est un truc extraordinaire. Malheureusement, cette année-là, on n'a pas fini le rallye. On est sorti de la route de la dernière spéciale au Turini. Et puis une autre année, avec c'est beaucoup plus récent, avec la Ford Fiesta S2000, où on fait un 3e temps scratch dans une spéciale. Et on s'immiscie dans les 8 premiers au général, après 4 spéciales. Donc on était vraiment juste. Et on a failli faire un exploit. Il nous a manqué vraiment ces 4 petites secondes qui sont vraiment dommages, parce qu'on aurait marqué l'histoire qu'une S2000 fasse un temps scratch devant toutes les WRC en moderne, et ça ne s'est jamais fait. J'ai failli le faire, c'est dommage, ça aurait été un joli petit truc à notifier, mais bon, voilà, on ne va pas s'arrêter à ce genre de futilité. Mais c'est vrai que la première fois qu'on a atteint Monte Carlo en 7e rang en 1993, c'était toujours quelque chose d'assez revalorisant. Je me souviens, il y avait tout le village qui était ici, qui nous attendait, et on a fait une grande fête, et ça... Je peux vous dire que dans toute ma carrière, j'étais très fier d'habiter ce village et que tous les citoyens me portent une attention particulière, et ça, c'est vraiment chouette, quoi.
Olivier Burry avec Mathieu Schaffner. Olivier Burry qui participe donc la semaine prochaine pour la 20e fois, oui, la 20e fois de sa carrière au rallye de Monte Carlo qui réunit les meilleurs pilotes du monde.
Merci d'avoir été des nôtres dans Cap Sport et excellent week-end.
À vendredi prochain.
Cap Sport, la rediff.